Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Laurence Trochu est notre invitée aujourd'hui. Laurence Trochu, bonjour. Vous venez de faire paraître un ouvrage un peu particulier et vous allez nous entretenir un peu de cette, cette épopée familiale que vous avez vécue auprès de votre époux et surtout auprès de vos enfants et de Stanislas en particulier.
Merci Benoît de votre invitation.
Alors, j'ai donc dit tout à l'heure à quelqu'un de Radio Courtoisie que votre livre est déjà un événement en tant que tel, puisque en l'espace d'un mois, mon diffuseur en a écoulé plus de 1500 et qu'on est déjà à près de 2000 exemplaires vendus, ce qui est un record aujourd'hui dans le monde de l'édition, en tout cas pour le lancement d'un livre. Et je voulais savoir ce qui vous avait conduit à nous livrer ce témoignage familial et très personnel d'un événement donc intime que vous avez vécu.
La conviction que ce que nous avions vécu dans cette dimension extraordinaire ne pouvait pas ne pas être dit, en fait. On ne pouvait pas garder un tel trésor pour soi et qui avait besoin aussi, peut-être un besoin particulier à l'égard des personnes qui nous ont soutenus pendant cette épreuve, donc en 2017, et qui n'ont pas forcément eu l'intégralité de l'histoire, qui n'ont pas forcément eu notamment la dimension spirituelle de cette épopée. Et on se sentait le devoir de le faire connaître. Et ça va bien au-delà de nos réseaux proches, puisque ce qui a été assez exceptionnel dans cet accompagnement que nous avons reçu, c'est qu'il n'a pas eu de frontières. Et on a, dans le monde entier, des gens ont prié pour notre fils. Et je savais que voilà, il y avait des fils WhatsApp qui étaient transférés, qui étaient transformés en email pour des personnes qui n'avaient pas ce moyen de connexion. Et donc il fallait répondre aussi à cette générosité qui nous avait entourés en donnant l'intégralité de l'histoire.
Parce qu'effectivement, non seulement votre entourage vous a soutenu, mais on peut dire que le soutien est venu jusqu'à l'archevêque de Bagdad.
De Bagdad, exactement.
qui célébrait. Alors, on va resituer évidemment le contexte de cet ouvrage. C'est un événement terrible. Un événement terrible qui survient un jour de scoutisme.
Non, un jour d'école ordinaire, voilà, dans la vie quotidienne, mais qui était malgré tout la veille du Mardi Gras. Effectivement, notre fils âgé de 11 ans a été renversé par une voiture qui roulait assez rapidement, en tout cas à une vitesse où normalement on n'en réchappe pas, en fait. Et on nous a tout de suite dit qu'il était dans un état extrêmement grave, alors avec des critères médicaux que je rappelle, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des repères aussi, hein. Donc c'était un coma Glasgow 3, donc sur une échelle de 10, donc plus proche de la mort que de la vie.
Mortalité de 90%.
Exactement, avec une atteinte du tronc cérébral, donc le tronc cérébral c'est ce qui commande les fonctions vitales, et puis un électroencéphalogramme qui était presque plat, donc il n'y avait pas de mort cérébrale, mais on en était tout proche.
Peut-être que demain, quand je me réveillerai, écrivez-vous, Stan sera mort. Demain, c'est Mardi Gras. Il n'y a eu ni crêpes ni Nutella.
Oui, parce que c'était...
C'est le petit clin d'œil du début de votre livre.
Exactement. C'était le dernier mot que Stanislas m'a adressé. Il me disait, voilà, il ne faut pas oublier demain d'acheter du Nutella pour...
D'autant que les crêpes étaient bonnes.
Voilà, exactement. Et c'est son petit frère qui n'avait que 3 ans, mais lorsque nous l'avons informé que nous partions à l'hôpital derrière le camion du SAMU, il avait perçu en fait la gravité de la situation et c'est lui qui prononce cette phrase terrible du haut de ses 3 ans. Peut-être que demain, quand je me réveillerai, Stan sera mort.
Oui. Alors, il y a quelque chose de bouleversant, c'est que votre époux... arrivé sur place, finalement, on peut dire, non pas rassure, mais réconforte le responsable, l'automobiliste responsable de cet accident.
Ça, c'est de fait incompréhensible à vue humaine, parce que je vois mon mari s'avancer vers à la rencontre de celui qu'on a tout de suite identifié comme étant l'automobiliste. Et cet homme était assez effondré. Et mon mari lui dit « Je vous pardonne ». Et sur le coup, enfin, moi, j'ai pas pris part à la conversation. J'avais la tête ailleurs. Mais après, j'ai dit à mon mari, pourquoi tu lui as dit ça? Enfin, ça paraît. Il me dit, je ne sais pas. En fait, j'ai été poussée à lui dire cela. C'est vrai qu'on a eu ce sentiment d'un homme qui était complètement déboussolé. Et mon mari m'a dit, on va pas ajouter du malheur au malheur.
Oui.
Voilà, et c'est le seul contact que nous avons eu avec lui. Il n'y en a pas eu d'autres ensuite, mais...
Il n'a jamais pris de nouvelles
Non,
Bon, ouais. Bon. Alors évidemment, vous posez la question de savoir pourquoi nous.
Oui. Oui, c'est la question que tout le monde se pose quand une grosse tuile lui tombe sur la, sur la tête. Pourquoi nous alors... C'était vraiment la question du sens de cette souffrance, puisque on était plongé dans l'inconnu, hein, voilà, 90% de mortalité. Petit à petit, on nous dévoilait une issue, voilà, qui n'était absolument pas favorable, puisque on nous a dit, bon, voilà, il va vivre peut-être pendant un an et demi, dans cet état de coma profond. Peut-être réussira-t-il à respirer tout seul et sera-t-il alors en état végétatif, mais il n'ira pas au-delà, il ne retrouvera jamais la conscience. Et en fait, la question qui se pose, bah, c'est de fait, qu'est-ce qu'on fait de cela? Qu'est-ce qu'on fait de cette situation?
Oui.
Et j'ai eu très vite, finalement, une conviction qui ne m'a jamais lâchée, que je n'ai pas forcément comprise à l'instant T. Mais cette phrase s'est imposée à moi pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Petite phrase qu'on dit, vous savez, à la messe dans la forme ordinaire du rite, alors qu'elle a été modifiée depuis d'ailleurs pour correspondre davantage à la traduction.
À la traduction.
Et j'ai vraiment été habitée par cette conviction que ça ne servirait pas à rien, sans comprendre.
Vous écrivez cette conviction ne me quittera jamais, j'en comprendrai progressivement le sens.
Oui, progressivement, parce que pour la gloire de Dieu, j'ai assez vite saisi de quoi il s'agissait. Je me suis dit, bon, étant donné que effectivement il n'y a pas d'issue favorable possible, si de fait il s'en sort, ça manifestera la gloire de Dieu. Ça relèvera du miracle, en fait. Pour le salut du monde, j'avais un petit peu plus de mal à saisir, et puis je trouvais même ça un peu prétentieux de penser que notre pauvre histoire allait s'inscrire dans une perspective rédemptrice.
Oui. Et missionnaire.
Et j'ai compris ensuite, parce que de fait, il y a eu des conversions, des baptêmes. Et d'ailleurs, ce livre est dédié à notre filleule Charlène, qui est une jeune fille qui a été baptisée... à l'adolescence, et voilà, parce que ses parents avaient dit si Stan s'en sort, on demandera le baptême, enfin on aidera notre fille à demander le baptême.
Une espèce de pari pascalien.
Exactement, et puis bah, y a eu d'autres amis qui ont demandé à l'âge adulte la confirmation, qui se sont mariés à l'église, qui... voilà, et puis tous les miracles qui ne se voient pas forcément, mais qui travaillent les cœurs et qui sont des fioretti qui nous sont livrés et que j'évoque simplement pudiquement, parce que de fait, je dois aussi la discrétion par rapport aux personnes qui nous ont confié cela.
Alors, il y a différents fils conducteurs. Votre livre se décompose en 22 chapitres.
Oui.
Ce qui d'ailleurs m'a beaucoup frappé parce que ces 22 chapitres, c'est correspondent un peu à l'Apocalypse de Saint Jean, qui fait 22 chapitres.
J'y avais pas pensé.
et le 22 dans la Bible, c'est le nombre des lettres hébraïques d'une part, et c'est ce qui fonde l'univers par le verbe, et en même temps, c'est un synonyme d'équilibre, de co-création pour la gloire de Dieu. Quand j'ai regardé effectivement la symbolique du 22, je me suis dit, mais le livre, effectivement, est un livre, c'est une espèce de montée, Apocalypse voulant dire révélation, c'est un genre justement de révélation progressive.
Oui, il y a eu cette en fait, il est construit sur la base de ce fil WhatsApp.
C'est une montée vers Pâques, d'ailleurs.
Exactement. Il est construit sur la base de ce fil WhatsApp qui avait été créé dès les premiers jours pour nous permettre de donner régulièrement des nouvelles. Parce que évidemment, nous étions assaillis de messages auxquels nous ne pouvions pas répondre individuellement. Et donc, ce fil WhatsApp a été la trame du livre. Il était à la fois l'occasion de faire un bilan médical de l'état quotidien de notre fils, mais aussi de donner finalement la manière dont nous vivions au jour le jour, avec ce carême qui démarrait d'une manière très, très particulière cette année-là, et qui nourrissait finalement notre traversée du désert. Avec les textes de chaque jour, et donc quand j'ai repris le livre, quand j'ai eu le projet d'écrire ce livre, j'ai repris le fil WhatsApp pour rester fidèle d'abord factuellement à la manière dont ça s'était déroulé, et puis pour me nourrir aussi des méditations que nous avions écrites chaque jour.
Oui, des notes. Et ce qui est assez frappant, c'est que le prénom même de votre fils Stanislas signifie « soi » et « glorifie Dieu ».
Exactement.
Donc, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, pour la gloire de Dieu.
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
C'est assez...
Oui.
Je trouve qu'il y a des signes.
Oui.
Il y a vraiment non seulement des symboles, mais des vrais signes de la Providence, tout au fil de votre témoignage.
C'est ce qu'on a expérimenté, en fait. C'est le fait d'avoir vraiment... Jésus à côté de nous, d'une manière presque physique, vous voyez. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'on était porté par la communion fraternelle, et c'est aussi pour cela que le préfacier, donc le chanoine Boulle, revient sur cet évangile de « nous sommes le corps du Christ
oui. ».
Chacun de nous est un membre de ce corps, et puis quand l'un d'eux souffre, eh bien, c'est tout le corps qui souffre. Ça, c'est vraiment une expérience paroissiale que nous avons vécue avec une communauté catholique qui nous a entourés aussi bien dans la prière que dans les petites choses de la vie quotidienne, puisque on a aussi bénéficié d'un réseau de solidarité incroyable pendant...
Oui, vous disiez qu'on vous préparait des repas,
exactement.
Des dîners plutôt.
Exactement.
Oui, oui.
Pendant deux mois, je n'ai pas eu de cuisine à faire, et je trouvais le soir, en rentrant de l'hôpital, souvent bien, bien tard, un panier repas pour 8, quoi. C'était incroyable.
Et votre activité professionnelle n'en a pas souffert?
Alors, ça a été quand même compliqué, c'est-à-dire que je me suis même posé la question de la démission, puisque j'étais à l'époque conseiller départemental des Yvelines.
Oui.
Et mon président, finalement, m'a dit « ne décide pas sur un coup de tête, vois comment ton emploi du temps peut être aménagé en gardant ce qui est absolument obligatoire et puis en étant déchargé pendant les semaines les plus pénibles de ce qui n'est pas nécessaire. » Et puis j'ai repris ensuite progressivement, mais c'est vrai que j'avais posé la question à mon fils, je lui avais dit parce que je siégeais au sein de la commission des affaires familiales et sociales, donc qui s'occupe notamment des personnes handicapées, de la MDPH, etc. Et il m'avait répondu avec beaucoup d'humour, c'est pas parce que t'as un handicapé à la maison qu'il faut plus t'occuper des autres.
Ah oui, effectivement, c'est une vision à la fois qui recentre sur la famille et sur la société.
Et sur la société, voilà. Exactement.
Oui. Alors, autre fil conducteur de ce livre, on peut dire beaucoup de références littéraires.
Oui.
Et surtout, un fil conducteur particulièrement présent, celui des, je dirais, de la poésie, en même temps que des réflexions très profondes du Petit Prince de Saint-Exupéry.
Oui, ça c'est un compagnon de route. Et j'ai découvert, parce que je pense que quand on a une... dans les épreuves comme celles que nous avons vécues, notre sensibilité est vraiment à fleur de peau. Et tout nous parle, en fait. La parole de Dieu prend à une acuité qu'on n'avait pas découverte jusqu'à présent. Et puis d'autres textes profanes nous parlent aussi. Et moi, j'ai vraiment cheminé avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry parce que, de fait, quand j'ai redécouvert Stanislas avec un corps, évidemment, qui n'était plus celui que nous côtoyions auparavant. Il était complètement turbané, voilà, puisqu'il avait été opéré.
Oui, il a été opéré du cerveau.
Du cerveau. Mmh. Et il avait ces mèches blondes un peu folles qui sortaient de ce turban. Et tout de suite, j'ai pensé à l'illustration du Petit Prince que tout le monde connaît.
Avec ses cheveux.
Avec ses mèches blondes qui sont un peu folles. Oui. Et j'ai eu ce cri du cœur, en fait.
Qui le relie au ciel,
voilà, de l'appeler mon petit prince. Oui. Et c'est vrai que j'ai relu le texte du Petit Prince et moi-même, il fallait finalement que j'apprivoise mon enfant qui n'était plus le même, dont la vie m'échappait.
Vous écrivez, j'ai compris brutalement dans ma chair la leçon du renard. On ne connaît que les choses qu'on apprivoise.
C'est ça, exactement. Il fallait apprendre finalement à communiquer, à aimer un corps qui devenait étranger à la vie, parce qu'en fait, le processus de dégradation physique va très vite. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, vous avez déjà un risque d'escar, par exemple, vous avez la peau qui se dessèche, vous avez les muscles qui s'atrophient, et vous voyez la transformation physique.
Surtout qu'au départ, c'est une descente aux enfers.
Oui. Exactement.
Au départ.
Au départ, clairement, le pronostic vital étant engagé, on vit au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour où il reste en vie est une petite victoire, mais on ne sait pas penser au-delà d'un jour.
Je sens que notre Stan éphémère est comme la rose du Petit Prince, menacée de disparition prochaine. Et là, vous avez une parole que je trouve assez bouleversante quand vous êtes à son chevet. En s'adressant à lui, vous lui dites « Mon Stanou, je ne sais pas si tu m'entends, mais au cas où, je t'en supplie, si tu sais que l'heure est venue pour toi de mourir, vas-y, va rejoindre Jésus. Je vois bien que les médecins s'interrogent sur le maintien de la réanimation. Ne nous laisse pas prendre la décision. »
C'est sans doute la phrase la plus horrible que j'ai eue à prononcer de ma vie, en fait. Je pense que tous les parents qui ont un enfant malade, voilà, ou dans un état délicat, savent à quel point il y a quelque chose d'anormal qu'un enfant meure avant ses parents. Enfin, voilà, c'est pas dans l'ordre des choses. Et je sentais en même temps qu'il y avait vraiment un point de bascule qui ne tarderait peut-être pas à arriver. Et cette question, effectivement, de bah, c'est quoi un protocole de fin de vie, finalement ? C'est une décision collégiale qui est prise par les médecins en accord avec la famille, selon des critères objectifs, certainement. Mais c'est une décision atroce qu'il faut accompagner,
C'est totalement contre nature,
accepter,
de toute façon, qu'une mère, que des parents voient leurs enfants disparaître, ça
c'est
n'est
ça.
Pas une situation normale.
Exactement.
Et ce qui est très frappant, c'est que votre manière de s'adresser à lui est un peu celle de la Vierge Marie, elle dit fiat, hein, qu'il me soit fait
oui,
selon
ah
bah, ta parole.
De toute façon, ça ne nous appartenait pas, en fait. On réalise aussi à quel point...
C'est comme le Christ devant la coupe.
C'est ça.
Hein
ouais. Et puis on réalise à quel point notre activisme dans lequel on voudrait finalement se consoler, trouver une solution, se dire non mais on va y arriver, la situation c'est pas possible, on va faire quelque chose pour trouver une solution pour que cette horreur s'arrête, pour que ce cauchemar s'arrête.
Mmh.
Et je découvre que finalement ce n'est pas dans l'activisme que se trouve la solution, mais c'est au contraire dans le silence, dans le calme, dans l'acceptation finalement de ne rien faire.
Oui.
Et donc, encore une fois, pour la gloire de Dieu, c'est là que ça se manifeste, c'est dans notre faiblesse, dans notre incapacité dans ce lâcher prise.
Que ta volonté soit faite,
voilà.
Et non la mienne.
Exactement.
Voilà. C'est une forme de résignation chrétienne, c'est pas une résignation de femmes désespérées.
Non, c'est une résignation où je dis au bon Dieu, maintenant, tout dépend de vous. Quoi. Donc,
face au mystère.
C'est ça.
C'est le mystère, non seulement de la souffrance, mais celui de la mort également. Mm. Alors évidemment, je parlais de descente aux enfers, n'est pas terminée, puisque il avait été extubé, comme on dit.
Oui.
Et il va être à nouveau intubé, ce qui est quand même très violent pour l'organisme.
Oui.
Extrêmement violent. Et il a attrapé une maladie...
respiratoire, une infection.
Ça doit être une infection nosocomiale, j'imagine.
Oui, bah, c'est lié à l'intrusion des tubes. Oui.
Bien sûr, et là, ce qui est incroyable, c'est vous là qui commencez à douter sérieusement, jusqu'à finalement presque reprocher au médecin une forme d'acharnement thérapeutique.
Oui, je voulais aller jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire que cette première extubation se fait de manière entre guillemets accidentelle, c'est-à-dire que justement la nuit qui a suivi le moment où j'ai dit à Stanislas que si c'était son heure de mourir, il ne fallait pas résister, mais que si ça n'était pas le cas, il fallait au contraire qu'il nous donne
un signe,
qu'il nous donne le signe d'une vie qui était possible. Et le lendemain matin, j'arrive au service de réanimation. Et je suis accueillie par le médecin et je me suis dit, bon, si elle est là, alors que ce n'était pas le cas les jours précédents, c'est qu'elle a quelque chose de terrible à m'annoncer. Et en fait, elle me dit, bah oui, vous allez être surprise en rentrant dans la chambre, votre fils respire, seul, sans l'assistance respiratoire. Et j'ai vu dans cet épisode une réponse, en fait, à mes paroles de la veille.
Bien sûr.
Mais cette autonomie respiratoire n'a pas duré très longtemps.
Non.
Et donc... Quand il a été réintubé, j'ai de fait demandé au médecin, mais est-ce que vous n'êtes pas vous, docteur, dans l'acharnement thérapeutique? Vous nous dites que finalement, il va vivre un an et demi.
Je suis paumé puisqu'il va mourir, à quoi bon l'avoir
Exactement.
Rebranché?
Exactement.
N'est-ce pas vous, docteur, qui êtes dans l'acharnement thérapeutique? Elle ne sait pas répondre, écrivez-vous. Elle ne sait pas. Ça fait 10 jours, on se laisse un peu de temps.
Oui. Ah bah, le critère temps est de fait fondamental. Et puis, vous savez, pour considérer qu'il y a mort cérébrale, il faut vraiment les trois piliers que sont le faible taux au Glasgow, l'atteinte du tronc cérébral et des commandes vitales, et l'électroencéphalogramme plat. Et l'électroencéphalogramme n'était jamais complètement plat. Donc, en fait, les médecins ne pouvaient pas non plus prendre une décision claire d'arrêt des soins.
Oui.
Donc, c'est pour ça que le critère temps était important. Mais on a eu cette chance, nous, de recevoir une éducation catholique qui nous a donné les repères sur toutes les questions morales, en fait, liées au début ou à la fin de vie. Mais quand on est en situation, quand on est à chaud, évidemment, ça prend une autre dimension. On a aussi été très bien accompagnés par des amis, par des prêtres.
Oui.
Qui nous ont...
Et puis votre amie médecin Céline.
Exactement, qui était vraiment au quotidien, même 2 ou 3 fois par jour au téléphone pour prendre des nouvelles et qui, voyant en fait l'évolution de la situation, pouvait aussi par anticipation nous préparer aux questions qui se poseraient finalement selon l'évolution de la situation.
Le... Donc, on peut dire que la suite est assez étonnante parce que j'apprends en vous lisant que dans la famille de votre époux,
oui,
il a été vécu une expérience relativement analogue.
Ah oui, un drame c'est terrible.
Inouï.
En fait, le frère aîné de mon mari est né un vendredi saint et les médecins...
Le petit Dominique.
Dominique, exactement. Oui. Et les médecins et l'équipe d'infirmières... voilà, n'ont pas fait les choses correctement. Il y a d'ailleurs eu un procès hein, que mes beaux-parents ont gagné, montrant l'erreur médicale. Et cet enfant a vécu pendant 11 ans dans une bulle stérile.
Ce que voilà, ses parents voyaient de lui n'était qu'écorce. Mais ils savent que l'essentiel est invisible pour les yeux. Nous souffrons ensemble, tous les quatre, nous qui avons toujours aimé le désert. Nous sommes assis sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence.
Oui.
Il devait y avoir effectivement entre vous une communion très profonde.
Très profonde. C'était à la fois pour eux le réveil d'un épisode extrêmement douloureux de leur vie. Donc ils ont aussi vécu notre chagrin. Avec le poids du leurre.
Oui.
Voilà. Et, Et en même temps, avec l'espérance qui les a habités et qui nous montrait que même avec une issue défavorable, la vie était encore possible. Et ça, c'est aussi un point important à souligner, c'est cette complémentarité entre un père et une mère. Mon mari a beaucoup insisté sur le fait qu'on devait continuer à prendre soin de nos autres enfants. C'est pas parce qu'on en avait un qui était au bord de la mort qu'il fallait négliger ceux qui étaient, eux, bien vivants.
Et c'était une famille nombreuse.
Et voilà, exactement. Et c'est aussi la sagesse, vous voyez, de nos parents, c'est l'accompagnement bienveillant. Les médecins eux-mêmes nous disaient... là, il faut partir en vacances avec vos autres enfants. On se débrouillera avec votre fils à l'hôpital, mais prenez du temps avec vos autres enfants. Et ça, c'est capital, parce que de fait, c'est toute une famille qui est éprouvée. Et je pense que ceux qui traversent des épreuves semblables le perçoivent, ce tiraillement, finalement, entre le temps qu'on ne maîtrise pas complètement, non, qu'on voudrait donner entièrement à celui qui en a le plus besoin, et puis le devoir qu'on a aussi auprès de ceux qui sont en bonne santé.
Je prends au mot notre Seigneur lorsque, de l'évangile du jour, il nous enseigne « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Je demande tout. Une guérison complète de Stanislas.
Oui.
Vous êtes une personne de tempérament, chère Laurence, et effectivement, vous exigez le meilleur.
Oui. De toute façon, oui.
Vous n'aimez pas la médiocrité.
Exactement. Je me suis dit, ce qu'on vit là, ça ne peut pas être tiède, quoi. C'est-à-dire, soit on décide de se lancer, en fait, dans les bras du bon Dieu avec cette confiance d'un enfant qui attend tout de son père. Soit on vivote et il n'en sortira rien de bon, parce que c'était pour nous ce moment de plonger vraiment dans la confiance absolue, en fait, oui, et de prendre Jésus au mot, quoi.
Vous écrivez, dans le service, ça tourne. Les chambres se vident et se remplissent. Les petits patients sont partis vers d'autres unités ou vers le ciel. Le cri déchirant d'une mère dans la chambre voisine nous l'a dit. Étrange impression d'être installé en terre connue, alors même que nous sommes plongés dans l'incertitude la plus terrible. Le soleil printanier n'a pas réveillé Stan, on observe des phases de coma profond, puis une activité des mains, comme de petits tourniquets, un rythme cardiaque plus rapide, des yeux mi-ouverts. On se dit qu'il se passe quelque chose, puis rien. C'est dans ce rien que le Seigneur agit, j'en suis sûr.
Mmh. Oui, parce qu'on veut, quand on passe de longues heures au chevet d'un malade, en fait, on scrute absolument tout. Et là, devant un corps qui était complètement immobile, des yeux fermés, aucune réaction, le moindre petit geste, en fait, on s'accroche à la manifestation de la vie dans le moindre petit geste. Et puis, en fait, je comprends petit à petit que beaucoup de ces petits gestes, en fait, ne sont que des réflexes et ne sont pas des actes volontaires, et que c'est simplement le sursaut d'un corps qui est encore là, qui est encore animé, mais dont il n'est plus maître.
Alors, vous avez un chapitre intitulé « Les yeux de l'âme », que oui, j'aime beaucoup, parce qu'il cite notamment François Cheng, que vous aimez beaucoup. Et vous êtes philosophe, de toute façon, de formation. Et j'ai remarqué que vous vous appuyez donc souvent sur des œuvres qui sont à mi-chemin entre la philosophie et la littérature, finalement.
Oui, mais François Cheng a été mon autre compagnon de route. Il y a eu Saint-Exupéry, mais il y a eu François Cheng. J'avais lu, en fait, De l'âme. Et puis, une amie m'a aussi offert, à ce moment-là, les 5 méditations sur la mort. Et évidemment, c'était tout à fait de circonstances. Et tout ce que François Cheng, à travers sa poésie, exprime de l'âme qui est là sans qu'on la voie, qui anime le corps et qui lui donne finalement cette continuité dans l'existence, cette persistance de l'être, alors qu'on ne peut pas palper quoi que ce soit. En fait, on contemple un mystère, en fait. On contemple le mystère de l'être.
Il s'agit de naviguer entre inattendu et inespéré.
C'est ça. On devant un corps inanimé,
oui.
Mais qui est malgré tout encore vivant, et qui est le signe finalement de...
La conscience de la mort qui nous taraude nous fait voir la vie comme un don inouï, sacré.
C'est ça. Et quelque chose qui nous dépasse.
Oui.
Enfin, la vie est au-delà de la volonté qu'on veut y mettre. Enfin, voilà, c'est...
La guérison de Stanislas manifestera la gloire de Dieu. Autrement dit, sa toute-puissance d'amour pour chacune de ses créatures. Elle servira le salut du monde, rien que ça. Ma première réaction est toutefois de juger cela un peu prétentieux. Le mystère est vraiment trop impressionnant.
Oui. Ce mystère dont parle Saint-Exupéry, et c'est quand on est dans ce pays des larmes, où finalement on découvre aussi, on se découvre soi-même, parce qu'on se découvre aussi capable de surmonter une épreuve qu'on n'aurait jamais imaginée.
Alors, quand on parle des yeux de l'âme, les yeux ont de l'importance. Mmh. Les yeux de votre fils, d'abord,
oui.
Qui s'ouvrent, qui s'entrouvrent.
C'est ça, avec toute la symbolique
oui.
Des louveteaux également.
Voilà. Vous parlez des étoiles qui
oui.
sont en fait les yeux
c'est
du
ça.
Ciel.
Exactement. Oui, oui, parce que il est
un très beau parallèle.
Stanislas était cisonnier, voilà, à Versailles, et son Akela m'a dit après qu'elle avait été elle-même très très touchée en lisant le fil WhatsApp par les références aux yeux, parce qu'elle dit en fait dans la progression des louveteaux. Le fait d'ouvrir un œil puis un autre, en fait, s'inscrit justement dans cet approfondissement, dans ce renforcement du louveteau, dans ses engagements. Et c'est vrai qu'on était perturbés hein, de ne plus croiser le regard de notre enfant. On guettait évidemment les yeux qui s'ouvraient ou qui ne s'ouvraient pas, ou de manière complètement aléatoire. Et
dimanche 19 mars,
voilà, jour de Saint-Joseph.
Imaginez notre surprise, les deux yeux de Stanislas sont ouverts.
C'est ça.
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Citation de François Cheng.
De Saint-Exupéry.
Ah, de Saint-Exupéry,
oui.
du petit prince. Et je crois que c'est un peu la stupéfaction pour toute
oui.
la famille.
Ah oui, oui. Bah oui, parce que en fait, les yeux qui s'ouvrent, c'est la vie qui revient. Et après, bah voilà, y a un regard, ou plutôt une absence de regard, parce que c'est un regard fixe qui est dénué de toute réaction. Et c'est ce test que font les médecins de claquer des doigts devant les yeux du patient pour voir si les pupilles se dilatent ou pas. Et puis rien ne se passait. Voilà.
Alors vous écoutez donc Laurence Trochu nous entretenir de son expérience familiale incroyable qu'elle relate à travers cet ouvrage « Maman, j'ai vu Jésus ». Et je rappelle que, évidemment, Radio Courtoisie vit grâce aux dons de ses auditeurs et ne vit que grâce à ses dons.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Chers auditeurs, nous retrouvons donc Laurence Trochu et son témoignage. Laurence, on parlait de ses yeux ouverts. Et vous dites qu'à partir de ce moment-là, Stanislas va aussi retrouver son corps.
Oui, il va réhabiter son corps.
Il retrouve son âme à travers ses yeux, si j'ose dire, et il va réhabiter son corps.
C'est ça, parce que va se produire donc, ce fameux 19 mars à l'issue d'une neuvaine à Saint-Joseph, pour lequel nous avons une grande dévotion, et Stanislas a comme deuxième prénom d'ailleurs Joseph. Ce geste que nous voyons les médecins faire auprès de ses yeux pour tester la dilatation des pupilles, mon mari le fait à son tour. Et les pupilles ne bougent pas, mais Stanislas répond d'un claquement de doigts. Et quand mon mari claque deux fois, la réponse est un double claquement, etc. Et en fait, on comprend ce jour-là qu'en fait, il y a une communication minimale qui est en train de se mettre en route. C'est pour ça que je dis, en fait, il est de retour. Il revient. Il revient parmi nous, même si c'était de manière fluctuante, pas continue et c'était très très ténu. Mais il y avait ces petits signes que les médecins eux-mêmes ne voyaient pas parce que Stanislas se gardait bien de répondre aux claquements de doigts des médecins. Il ne le faisait qu'avec nous. Donc évidemment, voilà, c'était un peu ambigu. Et on voyait le moment où les médecins allaient se dire, mais les parents déraillent.
Oui, c'est ça.
Il va falloir les prendre en charge à leur tour.
Oui.
Mais c'était le premier signe, finalement.
Puis c'était un signe d'ingénuité de sa part.
Oui, enfin, exactement. Mais ça correspond d'ailleurs très bien
à son
caractère. Exactement.
Bon. Oui. Le chapitre ça s'intitule « J'hallucine ».
Oui. C'est ce qu'a dit le jeune interne qui a été témoin, parce que quand tous les médecins
se sont... Parce que c'est du ressort du miracle, hein. il faut quand même le dire, que normalement ça ne se produit jamais.
Exactement. Et jamais. Quand les médecins venaient à son chevet pour tester justement ce claquement de doigts et qu'il ne se passait rien, un jeune interne a eu l'idée de rester un peu caché près de la porte pour être le témoin direct de cette communication que Stanislas avait commencé à établir avec nous. Et il a prononcé cette phrase en entendant ce claquement de doigts en réponse au nôtre. J'hallucine. Voilà. Et c'est vrai que l'infirmière qui était plus spécialement dédiée à Stanislas, elle n'a pas été surprise parce que dans les gestes de la vie quotidienne, elle avait repéré quand même qu'il y avait des moments où...
Oui.
Elle sentait qu'il était là.
Oui, c'est ça. C'est comme si les neurones se reconnectaient.
C'est ça, exactement.
Ouais, se régénéraient,
mais
on peut dire.
Mais à partir de ce moment-là, il a déjoué ce pronostic dans lequel on nous avait dit il n'y aura pas de retour à la conscience. Parce que, une réponse volontaire
qu'il exprimait. Chaque fois, le corps médical mettait un coup de bâton, si j'ose dire, c'est votre espérance.
Mais je pense qu'en fait, ils étaient dans la réalité objective des faits. Il n'y avait pas de volonté de leur part de noircir le tableau. Je pense que d'emblée, il était de fait très sombre.
Ce qui est assez frappant, c'est que vous écrivez « Je me surprends à l'imaginer harnaché et à demi-conscient de retour à la maison.
Oui.
Dans ce petit salon où nous nous retrouvons le vendredi soir pour l'apéritif familial. Désir d'une vie ouverte en communion avec d'autres vies, dans une commune présence où tout fait signe, tout prend sens. » Citation de François Cheng. Nos foulards imprégnés de nos parfums, un extrait de citron pioché dans le nez du vin, une sucette au chocolat passée sur ses lèvres, la diffusion de ses musiques préférées, la lecture des messages envoyés par la meute et Akela, des chants de veillée, tout est vie dans cette chambre. Les médecins s'interrogent sérieusement sur de réelles phases de conscience de Stanislas.
Oui.
Vous avez réellement essayé de recréer autour de lui tout ce qui faisait ses repères.
Oui, et notamment, on le savait paralysé, aveugle, mutique, évidemment. Et, Et les médecins nous avaient conseillé de réactiver les sens, notamment le sens le plus fondamental, hein, le toucher. Alors bien sûr, il y avait un objectif médical qui était la prévention des escarres, mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à le masser pour que les points d'appui justement ne soient pas fragilisés par la position allongée. On passait des musiques, on lui faisait goûter des sucettes au chocolat, oui. Et tout ça avait pour but finalement de le raccrocher à la vie,
de réactiver
ses sens, exactement. Oui. Ouais. Et ça, c'était vraiment sur les conseils des médecins, mais c'était aussi une manière qu'on avait trouvé d'établir le lien, d'établir le contact de manière assez minimale, mais pour que notre présence en fait se manifeste à lui par des choses connues, reconnues de la vie de tous les jours, vous voyez, odeurs.
À l'aube de la nouvelle année, vous lui faites recevoir l'onction des malades.
Oui, alors il l'a reçu deux fois. Mmh. En fait, il l'a reçu le lendemain de l'accident avec l'aumônier de l'hôpital. Et puis, un mois après, c'est-à-dire le jour de son anniversaire, puisqu'il a fêté son anniversaire dans le coma, un abbé est venu et c'était avant son transfert aux hôpitaux de Saint-Maurice.
Oui.
Voilà.
Qui vous obligeait à des déplacements considérables d'ailleurs.
Exactement. Mais c'était, en fait, on comprenait là aussi que ce sacrement des malades correspondait à des étapes, à la force dont il avait besoin pour franchir une nouvelle étape.
Oui. L'étape qui consistait à revenir sur Terre.
Exactement, exactement, à ne plus être coincé sur son astéroïde.
L'onction des malades n'étant pas réservée finalement à ceux qui vont...
N'étant pas que l'extrême onction,
exactement.
En fait.
Exactement. Oui. Quand parut l'aube aux doigts roses. Belle citation d'Homère.
Oui.
Et vous dites que Homère était un de ses écrivains préférés.
Il était en sixième au moment de l'accident et la lecture de l'année, c'était Homère.
Ah, c'est pour ça. D'accord.
Et je savais qu'il aimait beaucoup, en fait, ce livre. Et donc, quand il a retrouvé la conscience, même s'il ne pouvait rien exprimer encore puisqu'il était toujours mutique, par des petits gestes, il me disait qu'il voulait qu'on reprenne la lecture. Et donc, chaque jour, je lui lisais un petit passage. Et c'est donc un autre compagnon de route, Homère, qui, dans cette phase de retour à la vie, nous a accompagnés avec
ressourcement,
c'est ça,
à ce qu'est la civilisation. Finalement.
Exactement, ce retour à la vie, quand on a compris que finalement sa vie était possible, on ne savait pas encore dans quelles conditions, mais c'était notre Ulysse quoi, qui voulait rentrer.
Oui.
C'était notre Ulysse qui voulait rentrer.
C'est frappant.
C'est ça.
C'est frappant. À la fin de la neuvaine de prière par l'intercession du professeur Lejeune, le médecin nous informe que Stanislas est désormais considéré dans un état possi-relationnel, état qu'il ne devait jamais pourtant atteindre.
Oui, possi-relationnel, c'est-à-dire des phases de conscience et une communication possible.
Et c'était l'état du malheureux Vincent Lambert.
Exactement. Et c'est pour ça que...
Ça m'y a fait penser quand j'ai lu ça. Et je me suis dit, mais s'il avait été pris en charge par Laurence Trochu... Il est très vraisemblable qu'il serait revenu à la vie.
En tout cas, des services adaptés et spécialisés. Parce que c'est aussi ça qu'on a...
En restant pas dans un lit d'hôpital
de
base.
C'est aussi ça qu'on a découvert. Hein. C'est, nous, on a vu cette alliance de la nature et de la grâce avec, de fait, des médecins et un personnel soignant absolument incroyable pour savoir quelle était la réponse médicale à apporter. Et on a eu cette chance, de fait, que Vincent Lambert n'a pas
eu. Vous avez eu, il a eu vraiment la grâce à agir.
Oui,
vraiment la
exactement.
Grâce que Vincent Lambert n'a malheureusement pas eu.
D'en a pas bénéficié. Non. Et c'est vrai que quand ensuite Vincent Lambert a été tué, ça a eu un écho très fort chez Stanislas qui nous a dit « S'il le tue, ils nous tueront tous ». Cette prise de conscience que finalement, quand on met le doigt dans cet engrenage de l'euthanasie, les critères, les barrières vont tomber les uns après
Surtout
les autres.
Surtout que c'est une mort qui est la plus abominable qui soit, puisque c'est une mort par la faim et la soif.
Oui.
Donc, ça. On bénit le Seigneur de lire votre livre pour nous, pour voir les dons de sa grâce. Mmh. Hein, c'est vrai. Alors, venons-en au cœur de cette semaine sainte et qui va déboucher sur une expérience incroyable de votre fils qui va retrouver un instant la parole.
Oui, le jour de Pentecôte.
Le jour de Pentecôte.
Parce que petit à petit, Stanislas rentrait à la maison.
Pentecôte 2017.
Voilà, rentrait à la maison l'espace d'une journée. Il était on avait un dispositif médicalisé de lit, de fauteuil, etc. pour qu'il soit dans les meilleures conditions. À l'époque, il était
surtout
pas...
qu'il ne venait que temporairement.
Ah oui, c'était... Hein,
vous dites, il fallait à chaque fois de ne pas penser immédiatement aux larmes et sanglots qui accompagnent le départ dans moins de 7 heures.
C'est ça. Oui, il arrivait le matin, il repartait à 17 heures. Et ce jour de Pentecôte 2017 se passe quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il a été capable, durant 40 minutes, sans interruption, de manière fluide, avec un débit qui était très lent malgré tout, mais de raconter ce qu'il est convenu d'appeler une expérience de mort imminente et que lui appelle une expérience de vie imminente. Cette rencontre, en fait, avec Jésus au ciel, alors qu'on ne sait pas dater, évidemment, mais qui illumine, en fait, complètement ce drame que nous avons vécu et qui illumine encore aujourd'hui nos vies.
C'est un témoignage absolument bouleversant, puisqu'il va parler pendant 40 minutes.
Oui, hein, et il ne sera plus capable de le faire ensuite.
Non, il reparlera combien de temps après? Plusieurs mois?
Oui, parce que il y a eu plusieurs étapes aussi dans le recouvrement de la parole, c'est-à-dire des oui, des non, des phrases, sujet, verbe, complément.
Ce qui est incroyable, c'est que ce témoignage, il est extrêmement précis.
Oui.
Et il témoigne donc du fait que il a véritablement vu tout ce qui se passait autour de lui.
Exactement.
À partir du moment où il a été dans cet état de coma.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu cette étape d'abord de sortie de son propre corps, où il a pu voir ce qui se passait dans la maison. Et voilà, pour avoir ensuite
étudié... J'ai vu maman s'écrouler en pleurs dans le salon près de la commode. Je voyais ce qui se passait. Alors que je n'étais pas avec vous, vous êtes même venu me dire au revoir avant que le SAMU ne m'emmène à l'hôpital. Vous vous penchiez sur mon corps, mais mon âme n'y était plus.
Voilà, et ça c'est une constante dans les expériences de mort imminente, je l'ai découvert ensuite parce que moi c'était un sujet que je ne connaissais absolument pas. Le docteur Tellier, voilà, avec
qui a écrit un très beau livre.
Qui a écrit un très beau livre.
Expérience de vie imminente,
c'est ça.
Chez Arthège.
Et avec lequel nous avons eu la chance d'avoir des contacts, parce qu'il se trouve qu'en fait il est le grand-père de l'Akela. De Stanislas au moment de l'accident. Et donc, il nous a expliqué effectivement qu'il y a des constantes dans ces expériences de mort imminente. La sortie du corps, l'expérience finalement de ne plus habiter son corps et donc de pouvoir se déplacer ailleurs. Et puis, le deuxième point important, c'est que la rencontre avec Jésus déclenche une guérison. Alors, pas forcément totale, hein, en l'occurrence chez Stanislas, elle est partielle, mais déclenche aussi une guérison qui est inexpliquée aux yeux de la science.
Oui, bien sûr. Alors, il explique que Jésus est venu le voir et qu'il était accompagné, que lui-même, Stanislas, était accompagné d'anges et de Marie dans un champ couvert de fleurs que je n'avais jamais vu sur terre. Et il a d'ailleurs représenté le passage. Cet au-delà, en couverture de votre ouvrage,
exactement.
Avec ce qui ressemble à une sorte de fleur magnifique, environnée de d'entités célestes, enfin,
oui,
et de couleurs, en tout cas, de couleurs absolument magnifiques.
Ce qui l'a beaucoup frappé, et c'est la phrase qui revient, ou l'expression qui revient toujours quand il nous parle de l'au-delà, c'est que Jésus était resplendissant de lumière, et que les personnes qu'il a rencontrées au ciel, ses arrière-grands-parents notamment, était caractérisée par cette lumière. Le tableau qu'il a peint ensuite...
J'ai rencontré grand-maman, elle était resplendissante de lumière. Je ne veux pas tout lire parce que je veux quand même laisser les auditeurs découvrir votre livre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez expliqué qu'il ne connaissait pas, je crois, sa grand-mère.
Alors ici, il connaissait son arrière-grand-mère, mais il avait 5 ans au moment de son décès.
Ah oui.
Et son arrière-grand-père, en revanche, il ne l'a jamais connu.
Elle m'a présenté grand-papa. Grand-maman était si heureuse qu'elle applaudissait. Jésus, à côté d'elle, était resplendissant de lumière. Marie appelait Jésus pour aller cueillir des pommes.
Oui.
C'est extraordinaire.
Et vous voyez, ce témoignage, on l'a écrit... Oui. Sous la dictée presque, c'est-à-dire que quand on a réalisé que Stanislas était en train de nous raconter quelque chose de tout à fait extraordinaire, pour ne pas en perdre une miette, pour ne pas le déformer aussi, nous l'avons consigné. Donc nous avons fait le choix dans ce livre de le transcrire de manière fidèle aux paroles que nous avons entendues, sans en modifier la composition, la structure, etc. Donc, il y a parfois des passages qui peuvent paraître un peu décousus, mais c'est le témoignage qu'il nous a livré ce jour de Pentecôte.
J'ai vu les places préparées pour mes parents, mes frères et sœurs. Il m'a montré l'enfer, je me suis soulevé pour voir par une petite fenêtre ce qu'il y avait dedans. C'était atroce.
Il en parle d'ailleurs très peu.
Très peu.
L'évocation de l'enfer reste... reste douloureuse. Donc, il ne s'étend pas là-dessus.
Sa conclusion, vous voyez maintenant ma vie, est faite pour témoigner de l'amour infini de Jésus. C'est ce qui compte le plus pour moi. J'aurais préféré rester avec Jésus, même si je suis content de vous avoir retrouvé. Ici, sur terre, le moment le plus beau, c'est la messe. Ça, j'avoue que quand on lit ce témoignage intégralement, ça ne se termine pas. Ici, sur terre, le moment plutôt, c'est la messe. On ne s'y attend pas.
Oui.
Du tout.
En fait, il a gardé une nostalgie du ciel, j'appelle ça comme ça. Et ça n'a pas été facile, en fait, de revenir dans la vie quotidienne avec ses lourdeurs, avec les choses qui nous embêtent, avec le train-train qui n'est pas très exaltant. Alors qu'il avait connu cette expérience d'un amour absolu.
Oui.
Voilà. Et puis après...
Moi, je croyais qu'il allait dire, effectivement, l'expérience, c'est l'amour, c'est la charité. Non, la messe.
La messe,
c'est finalement...
C'est le ciel sur la terre.
Oui,
en fait,
voilà.
C'est ça. C'est le ciel sur la terre. Et en même temps, vous voyez, c'est un jeune homme.
Et c'est la réactualisation du sacrifice.
Exactement.
En même temps.
C'est
rédempteur.
C'est aujourd'hui un jeune homme de 21 ans, mais voilà, qui n'est ni un saint, ni un héros. Enfin, je veux dire, il a la vie d'un jeune de son âge avec.
Il a retrouvé une vie quasiment normale.
Alors, c'est un peu fort quand même de dire ça. Ouais, c'est un peu fort de dire ça quand même.
En tout cas, une vie intellectuelle et d'études.
Oui, il a réussi son bac
ça, c'est quand même assez
avec mention bien. Il s'en sert dans la vie professionnelle petit à petit, mais malgré tout au prix de gros efforts, d'une grande fatigue quand même qui caractérise les traumatisés crâniens. Donc la vie est compliquée. Oui. C'est une vie qui est assez austère, je pense, quand même.
Oui.
Une vie amicale et sociale aussi qui n'est pas facile à construire. Mais voilà, avec les combats qui sont les siens.
Et en même temps, le témoignage
qui me fait dire que finalement, paradoxalement, c'est peut-être l'enfant pour lequel je suis le moins inquiète. Parce que je me dis que le bon Dieu ne peut pas l'avoir mené à travers toutes ces péripéties sans qu'il n'y ait finalement de solution à chaque étape importante de sa vie.
Alors, cher Laurence Trochu, l'émission touche à son terme et je crois que vous allez dédicacer l'ouvrage non pas ce samedi, mais le samedi...
Le samedi 6, il me semble, c'est ça
au comptoir des monastères.
Exactement.
Donc, le samedi de la semaine prochaine.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et vous irez également dédicacer à Nantes.
C'est
et
à Nantes
Angers.
Le 6, je crois.
Ah bon. Comptoir
des monastères, c'est pas la semaine prochaine.
Non. Alors, bon, en tout cas, on donnera toutes les dates sur notre site internet. Voilà. Et je voulais terminer, puisqu'il reste une minute, en vous lisant un témoignage Bonjour, j'écoute avec intérêt votre émission. Une histoire pareille m'est arrivée aussi et je suis resté plusieurs jours dans le coma. Ce n'est qu'avec les prières quotidiennes de mon père que je suis resté en vie et sans séquelles majeures. Votre invitée est très courageuse et c'est très noble de sa part d'avoir pardonné au conducteur sans que celui-ci n'ait pris la peine ensuite de demander des nouvelles. Merci encore.
Merci.
Une auditrice. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je rappelle le titre « Maman, j'ai vu Jésus » donc de Laurence Truchu, avec une préface du chanoine Marc Boulle,
oui,
qui aujourd'hui est d'ailleurs vicaire à Versailles, vicaire général. Et le livre est à 14 euros.
Aux éditions Via Romana.
Vous venez d'entendre Fil des pages, dirigé par Benoît Manchon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 27 mai 2026, de 10h à 11h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.